La suspension de la réforme des retraites à l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée nationale la nuit prochaine. Le débat aura lieu jusqu'au bout, promet Sébastien Lecornu, le Premier ministre, alors que le PS continue de mettre la pression sur son gouvernement. Le maire de Marseille déprogramme un film Sacré-Cœur. Une heure avant la diffusion, il a pris un arrêté d'interdiction au nom de la laïcité. Le salon Batexpo débute aujourd'hui, un rendez-vous baie de la Moselle alors que le secteur du BTP peine à retrouver des couleurs depuis les violences de 2024. Le nombre de salariés a été divisé par deux selon les estimations. Un nouveau conseil municipal tendu hier soir à Dimbéa. Deux décisions modificatives du budget étaient notamment à l'ordre du jour. Elles ont été adoptées sans les voix du nouveau groupe d'opposition, les loyalistes, le Rassemblement Dimbéa. Le sport et un Tour de France 2026 taillé pour les grimpeurs. Le parcours a été dévoilé cette nuit. Sur les 21 étapes de la 113e édition de la Grande Boucle, il y en aura 8 en montagne, avec 5 arrivées en altitude, dont 2 à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil continue de briller sur l'ouest et la pointe nord. Ailleurs, les nuages se font plus nombreux et finissent par l'emporter. Quant aux températures maximales, elles sont en hausse. Elles sont comprises entre 28 et 30 degrés et localement 31 à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une, l'actualité nationale.
Oui, c'est une promesse de Sébastien Lecornu. La suspension de la réforme des retraites fera bien partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Un conseil des ministres spécial l'a acté hier soir pour nous via une lettre rectificative. Une lettre qui devrait permettre au débat d'avoir lieu jusqu'au bout, comme l'expliquait le Premier ministre cette nuit. Et par cette mesure, Matignon cède surtout officiellement à la principale requête du Parti socialiste, Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Oui, la gauche et le Rassemblement national attendaient toujours des garanties de la part de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre aura tenu parole, il laisse désormais la place au Parlement, comme il l'expliquait cet après-midi, en rappelant que rien n'est figé.
Le débat va avoir lieu, et vous savez quoi, c'est très sain, parce qu'il va avoir lieu en transparence devant le peuple français. Donc la lettre rectificative, c'est pas la proposition définitive, c'est ce qui va permettre au débat d'avoir lieu jusqu'au bout. Désormais, la question des retraites ne pourra plus disparaître, pourra être rejetée, pourra être débattue, pourra être mise au vote, elle pourra être adoptée, la vie parlementaire, mais ce débat, il pourra avoir lieu jusqu'au bout.
Le gouvernement s'engage en revanche à compenser le coût de cette suspension, évalué à 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard en 2027. À ce stade, Matignon envisage deux propositions de financement. D'une part, la sous-indexation des retraites de 0,5 points par rapport à l'inflation et d'autre part, une surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé. Des mesures qui seront également débattues dans les prochaines semaines.
Mais alors, est-ce que ce sera vraiment suffisant pour les socialistes? Le PS remet la pression sur l'exécutif. Boris Vallaud laisse planer la menace de la censure à la veille de l'arrivée du budget dans l'hémicycle de l'Assemblée. Si le bloc central n'est pas capable de justice fiscale, je ne suis pas sûr qu'il sera possible de discuter de la suite, assure le chef des députés PS, en citant notamment la taxe Zucman ou encore le retour de l'ISF. Et pendant ce temps-là, le Rassemblement national présente un contre-budget avec à la clé 36 milliards d'euros d'économies. Le Rassemblement national qui veut freiner les dépenses, Alexandre Chauveau.
12 milliards d'euros d'économies sur l'immigration, 8 sur la réduction des agences de l'État et autant sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne, souvent qualifiée de socialiste par ses adversaires, notamment à droite. Marine Le Pen entend montrer qu'elle sait aussi baisser les dépenses, y compris lorsqu'on lui oppose l'infaisabilité supposée de ses économies.
Vous allez me dire que certaines mesures, je pense par exemple à la baisse de notre contribution à l'Union européenne, n'est raisonnablement pas possible. Oui, certaines mesures nécessitent une volonté politique forte, voire d'engager le bras de fer. En l'occurrence, pour cet exemple, avec l'Union européenne, nous l'assumons et je dirais même, nous le revendiquons.
Ces propositions tranchent avec celles des autres groupes, mais Marine Le Pen assume, tout en s'opposant dans le même temps à certaines hausses d'impôts réclamées par la gauche, comme la taxe Zucman par exemple, manière de s'attaquer au procès en irresponsabilité intenté par ses adversaires et d'apparaître moins urticante pour les électeurs de droite. Sur la forme, la patronne des députés RN a demandé à son groupe d'être très présent dans les prochaines semaines dans l'hémicycle pour tenter d'obtenir des victoires symboliques à revendiquer auprès de ses électeurs.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, la préparation du budget de la France qui préoccupe le MEDEF. Son président national, Patrick Martin, est actuellement sur le territoire et il était hier midi l'un des invités des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu et il a partagé ses craintes. Patrick Martin estime que les choix politiques qui sont faits aujourd'hui et notamment la suspension de la réforme des retraites ne vont pas dans le bon sens. La réforme des retraites doit être appliquée, martèle le président du MEDEF.
On ne le souhaite pas pour le MEDEF, ni même pour les entreprises elles-mêmes, on le souhaite pour le pays. Parce que finalement, La France est en train de se déclasser progressivement, et particulièrement en termes de pouvoir d'achat par habitant. Quand on voit que l'Allemagne, la Hollande, maintenant, ont un pouvoir d'achat par habitant supérieur de 15, 20, parfois 40% celui des Français, alors que ça n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans, ça doit interroger. Quelle est la réponse ? La réponse, c'est qu'il faut travailler plus. Et je dirais qu'elle est pimentée, cette réponse, par le fait évident qu'on a une démographie qui va de plus en plus déséquilibrer.
Travailler plus ou travailler plus longtemps ?
Alors, les deux. Les deux, évidemment, le fait qu'on suspende non seulement la réforme Borne sur l'âge légal de départ, mais la réforme Touraine sur le nombre de trimestres de cotisation, ça va donner un coup de frein terrible et ça va peser sur la prospérité du pays, donc le pouvoir d'achat. Et en ce moment même, on est en train de suspendre, peut-être d'annuler, disons les choses, ces réformes des retraites, et on a un projet de budget qui va taxer plus encore les investisseurs et les entreprises, donc le capital. Mais écoutez, c'est pas ça qui nous mettra dans la bonne direction, et moi en tant que président du MEDEF, j'assume totalement cette position, qui est peut-être pas très populaire, mais qui est de bon sens.
Et d'une manière plus générale, Patrick Martin estime que les sujets essentiels, l'emploi des jeunes ou encore la formation par exemple, ne sont pas assez pris en compte dans le débat politique.
Quand vous regardez bien les choses, le débat politique est focalisé sur quelques sujets qui ne sont pas négligeables, mais qui ne sont pas essentiels. C'est la taxation des super-riches, c'est les supposées aides aux entreprises avec un rapport qui est complètement bidon. Je le dis d'autant plus que je l'ai dit à son auteur quand il m'a invité à plancher en face de lui à la fête de l'humanité. Vous voyez que rien ne m'arrête, où j'étais très bien reçu, je dois le dire. Et un certain nombre d'autres sujets qui délibérément saturent le débat public et occultent les vrais enjeux. Je le redis, les vrais enjeux, c'est la croissance, c'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est la compétitivité. Et je finis en vous disant que je suis profondément choqué, y compris des formations qui historiquement et je dirais philosophiquement devraient s'y intéresser, ne parlent même plus d'emploi et parlent encore moins des jeunes. Je pense que c'est beaucoup plus important que d'aller chercher 1 milliard ou 2 milliards d'euros au risque de dissuader les investisseurs de venir en France.
Le président national du MEDEF, Patrick Martin, hier dans nos studios lors des jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Après son étape calédonienne, il rejoindra la Polynésie française avant de rentrer à Paris. Il est 6h05, passé de 38 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sur le territoire et notamment l'actualité politique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour une participation citoyenne au sein de notre Assemblée, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vous donne rendez-vous pour échanger sur les conclusions de son étude. Imaginons ensemble la démocratie participative au Congrès. Plus de 1000 Calédoniens ont été consultés. Mercredi 29 octobre de 18h à 20h dans l'hémicycle du boulevard Vauban, entrée libre. Plus d'infos sur congrès.nc.
Ils étaient 2000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 dugongs en Nouvelle-Calédonie. Braconnage, collision avec les bateaux, prise dans les filets, destruction des herbiers. Nos dugongs disparaissent, lentement, sous nos yeux. Il n'est pas trop tard pour les sauver, mais il faut agir maintenant. Si vous voyez un dugong mort ou échoué, appelez le 16. Et si vous êtes témoin d'un acte de braconnage, appelez le 17. Ceci est un message du plan d'action dugong piloté par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, financé par l'État par le biais du Fonds vert et du programme France Nation Verte.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie vous invite au salon BAT Expo et Plus du 24 au 26 octobre à la baie de la Moselle. Un événement dédié aux professionnels et au grand public autour du bâtiment, de l'habitation et de la décoration. Vendredi et samedi de 9h à 17h30 et dimanche jusqu'à 16h. BAT Expo et Plus, un salon incontournable pour construire, rénover et décorer sa maison.
Vous êtes titulaire d'une licence et vous souhaitez devenir professeur des écoles ? Demandez votre admission en première année du Master MEF, mention premier degré à l'INSPE de l'UNC jusqu'au 3 novembre prochain. Pour postuler, téléchargez le dossier sur le site internet de l'UNC ou retirez-le directement à l'INSPE au campus de Nouville. Plus de renseignements au 29 05 00.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie et le FLNKS qui réagit à l'adoption de la motion de rejet préalable qui a renvoyé la proposition de loi organique devant une commission mixte paritaire. Et il affirme qu'il faut abandonner le projet de Bougival. Dans un communiqué, il indique qu'il demeure la principale force politique du pays, le représentant légitime du peuple kanak et le principal acteur du processus de décolonisation. Et pour lui, régler la question politique de la Nouvelle-Calédonie sans le FLNKS est intellectuellement et moralement incompréhensible. Il ajoute qu'il ne reviendra pas à la table des discussions concernant le projet d'accord de Bougival. Notez que ce matin à 7h30, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui sera notre invité du matin depuis Paris. Il reviendra au micro d'Elisabeth Noir sur cette motion de rejet préalable qui a ouvert la porte à une discussion de la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales en commission mixte paritaire avec 7 députés et 7 sénateurs. Rendez-vous donc à 7h30 avec notre invité du matin, le député Nicolas Metzdorf. Et puis c'est le président de l'éveil océanien, Milakulo Tukumuli, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'actualité politique calédonienne, sur le cheminement législatif de la loi sur le report des provinciales, sur le projet de loi constitutionnelle et plus globalement sur l'accord de Bougival et la difficulté de sa mise en œuvre avec notamment le refus du FLNKS. Milakulo Tukumuli, invité de Transparence, c'est à suivre donc à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'actualité en bref, c'est aussi un feu d'habitation hier en fin d'après-midi à Yaoué sur la commune du Mont-d'Or. Les pompiers sont intervenus pour faire face à un embrasement généralisé d'une habitation construite en partie en tôle. Une enquête a été ouverte. Les élus de la ville de Dimbéa étaient réunis lors du conseil municipal hier soir. 23 délibérations étaient à l'ordre du jour, Lionel Sabot, avec notamment deux décisions modificatives du budget principal de la commune.
344 millions de francs ont en effet été reçus de l'assurance, 97 millions du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, en plus des subventions de l'État destinées à la reconstruction de la ville, ce qui a conduit l'équipe municipale à faire des réajustements dans les budgets principaux et annexes au profit notamment de certaines infrastructures. Structure sportive. Johan Lecourieux, le maire de Dimbéa.
C'est pour intégrer les recettes, l'aide de l'État à la reconstruction sur les différents équipements publics qui ont été démolis et que la ville reconstruit avec l'aide de l'État. Ça permet surtout de pouvoir reconstruire dans des délais assez courts les équipements, notamment sportifs ce soir, mais aussi d'autres équipements que nous avons sur le territoire. Et tout particulièrement ce soir, l'équipement sportif qui est sur le parc d'Almas aujourd'hui pour les rugbyman et les footballeurs.
Deux décisions modificatives du budget principal qui ont été adoptées à la majorité sans les voix du nouveau groupe d'opposition, les loyalistes, le rassemblement Dimbéa. Une fois n'est pas coutume, les échanges ont été tendus entre le maire et ce nouveau groupe mené par Cynthia Jean. Il reprochait notamment à Johan Lecourieux son manque de transparence sur plusieurs points abordés en séance.
Ce soir, notamment, ça a été particulièrement flagrant. Par exemple, sur la question des concessions électriques, le maire n'a pas réussi à nous expliquer pourquoi il avait une nouvelle fois coupé la ville en deux, avec d'un côté une attribution EEC, de l'autre Enercal. Pas de réponse non plus, question très importante sur le paiement de la cotisation à l'Association française des maires par la mairie de Dimbéa. Rien non plus sur des projets importants de bâtiments détruits pendant les émeutes, dont on nous a dit qu'il y avait eu un accord de l'État, mais sans précision sur quel projet, où, comment, pourquoi. Et puis, globalement, on regrette quand même un ton toujours très condescendant à notre égard. Nous sommes des élus de la ville de Dimbéa, élus par des électeurs, donc on estime qu'ils ont droit à la considération. Et ce n'est pas ce qui nous a été montré ce soir.
Mais de son côté, Johan Lecourieux accuse le groupe de faire de la démagogie.
De la pure démagogie, parce que toutes les décisions que nous passons se passent au conseil municipal. Le lancement des DSP en deux lots a été voté par le conseil municipal. L'attribution a été votée par le conseil municipal. Tous les appels d'offres se passent en conseil municipal. Donc on ne peut pas faire plus transparent. Et comme aussi tout... les PV du conseil municipal est axé au grand public, donc il n'y a pas de souci. L'opposition, notamment de Génération NC, joue beaucoup avec l'argent public et demande des baisses et des baisses, mais en l'occurrence, il n'y a pas la capacité de la ville à l'heure actuelle de pouvoir offrir ces baisses. Je rappelle que pendant le Covid, la seule commune qui avait baissé de 30% une partie de redevance était la commune de Dimbéa. Quand on peut le faire, on le fait, et quand on ne peut pas, on ne le fait pas.
Les propos recueillis hier soir par Charlotte Coulson, le prochain conseil municipal de Dimbéa aura lieu le 13 novembre prochain.
Et les questions budgétaires seront aussi au menu des élus de l'Assemblée de la Province Nord qui se réunissent aujourd'hui à Conné. Parmi les 21 points à l'ordre du jour figure en effet l'examen de la décision modificative numéro 3 du budget. Pour le reste, il s'agit essentiellement de l'attribution de subventions à des particuliers pour la réalisation d'un logement dans le cadre du programme Action sociale intégrée de la province. Hier, les élus de la province sud ont procédé au débat d'orientation budgétaire de la collectivité. L'exécutif prépare un budget 2026 prudent. Les conséquences économiques des violences de mai 2024 continuent de peser lourd. Les recettes fiscales sont en forte baisse et pour faire face, la collectivité envisage de réduire ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant son effort d'investissement à hauteur de 10 milliards de francs. Une stratégie prudente destinée à préserver la relance économique malgré un contexte budgétaire tendu. Et justement, comment se porte le secteur du BTP en Nouvelle-Calédonie? C'est une question qui se pose, car si de nombreux bâtiments sont déconstruits, une faible quantité est en comparaison reconstruite. Pourtant, ce secteur est important, il fait vivre plus de 4000 personnes, soit 8% des salariés du territoire. C'est même le troisième employeur en Nouvelle-Calédonie, en tout cas avant son effondrement à la suite des émeutes de l'année dernière. Aujourd'hui, la situation est critique selon Éric Lafitte, le coprésident de la Fédération calédonienne du BTP.
Le secteur se porte très très mal, la situation est vraiment catastrophique. Toutes les sociétés se sont restructurées, ont réduit les effectifs de façon importante. Il y a une aide de l'État qui a apporté 16 milliards de travaux de reconstruction, qui sont en majorité, c'est des rénovations. Mais ce n'est pas l'Eldorado qu'un peu certaines personnes promettaient au lendemain des émeutes en disant qu'il va y avoir plein de travail. Non, non, les choses ne se reconstruisent pas. Il y a quelques réparations, des rénovations qui donnent un peu de travail à des corps d'État. C'est une très bonne chose. Et ça s'arrête là. Donc il y a eu pas mal de déconstructions aussi qui sont quasiment terminées, qui ont donné un petit peu d'activité. Mais vraiment, reconstruire beaucoup de bâtiments, non, non, le neuf est complètement à l'arrêt. Il n'y a quasiment rien. À cela se rajoute aussi le problème des assurances. Donc, beaucoup, je ne vais pas m'étendre dessus, beaucoup en parler, mais des difficultés effectivement d'assurance. En restant au niveau du secteur privé, les investisseurs sont absolument pas là parce qu'ils n'ont pas confiance à l'avenir, ce qui s'entend.
Et avant les émeutes, 6000 personnes étaient salariées dans le BTP, un chiffre désormais passé en dessous des 4000 et qui devrait même atteindre 3000 à la fin de l'année selon les prévisions. Alors pour aider la relance de l'activité, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en œuvre un dispositif fiscal inédit. Il permet aux particuliers de faire réaliser jusqu'à 15 millions de francs de travaux déductibles de leurs revenus imposables en répartissant librement cette enveloppe sur 3 années, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Une aide qui devrait faire du bien aux 90 exposants du salon Batexpo qui ouvre ses portes aujourd'hui et qui seront présents de vendredi à dimanche, baie de la Moselle. Écoutez Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA.
Des avantages fiscaux qui sont importants aujourd'hui et qui peuvent permettre à nos entreprises bien d'avoir des chantiers et permettre aux particuliers de déduire ces avantages fiscaux importants. Ces avantages peuvent permettre justement de vraiment déclencher des travaux parce que dans la situation dans laquelle on est, beaucoup de monde s'interroge aujourd'hui de savoir s'ils doivent faire ou pas des travaux et je pense qu'une incitation fiscale permet de déclencher de nouveaux chantiers. On l'a vu sur d'autres salons que l'on a fait, ça a permis à certaines entreprises eh bien, de pouvoir signer des contrats grâce à cet outil qui permet une fiscalité beaucoup plus intéressante pour les particuliers.
Et signalons que le salon Batexpo n'aura pas lieu comme à l'accoutumée au salon des artisans, mais bien à la baie de la Moselle. Le rendez-vous est donné aujourd'hui et demain de 9h à 17h30, puis dimanche jusqu'à 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Tout d'abord, la réponse à notre question d'hier. 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas trouver normal que des détenus du camp Est fassent un recours contre l'État pour protester contre leurs conditions de détention. Ils sont 14% à dire à l'inverse qu'ils trouvent ces recours normaux. Voici notre question du jour. Approuvez-vous l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion préalable de rejet pour contrer l'obstruction des députés de la France insoumise à la loi sur le report des élections provinciales? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à la question du jour. Il est 6h, passé de 49 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en métropole et notamment la tempête Benjamin qui est passée. Malheureusement, un touriste allemand a trouvé la mort dans une baignade avec la montée des eaux.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Le nouveau SUV Subaru Forester, un design renouvelé, moderne et affirmé. Le nouveau SUV Subaru Forester, 182 chevaux sous le capot, 4x4 permanent et technologie EyeSight pour une sécurité et un confort incomparables. Le nouveau SUV Subaru Forester, chaque trajet devient un moment de sérénité et de maîtrise. Venez le découvrir et l'essayer au village automobile au PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné. Le nouveau Subaru Forester, puissance, style et innovation réunis dans un SUV unique. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au PK7 rue Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
Vendredi 24 octobre, venez soutenir les candidats de la grande finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa. La parole est à toi.
Ils auront chacun 5 minutes pour vous surprendre, vous faire rire, vous émouvoir sur un thème de leur choix. Une soirée dédiée à l'expression orale, sous toutes ses formes. Une soirée où la jeunesse prend la parole.
Vivez la finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa, le vendredi 24 octobre à 19h, dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Speed Marine booste son offre carénage pour cette fin d'année. 15% de remise sur votre anti-fouling en donnant le code SPEED2025. Ouvrez votre compte carénage chez Speed Marine et bénéficiez gratuitement du carshare et de l'échafaudage. Partez l'esprit tranquille avec Speed Marine. Retrouvez toutes nos offres sur notre page Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité en métropole, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord, la procureure de Paris qui se dit optimiste quant à la possibilité de retrouver les 4 voleurs du Louvre. 150 prélèvements de traces, notamment ADN, ont été réalisés sur les lieux du casse du siècle. Les retours dans les prochains jours ouvriront peut-être des pistes, notamment si les auteurs étaient fichés. C'est ce que déclare la procureure de Paris. Le film Sacré-Cœur déprogrammé à Marseille, il s'agit d'un documentaire sur les bienfaits de l'amour de Dieu sur la société et qui devait être projeté publiquement au château de la Buzine. C'est un cinéma municipal et finalement, eh bien, le film a été interdit une heure avant par le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a invoqué le principe de laïcité, Cyril de la Morinerie.
Oui, le maire de Marseille estime que la diffusion d'un tel film au château de la Buzine, lieu culturel de Marseille, est contraire aux lois en vigueur. Pour Benoît Payan, un équipement public ne peut accueillir des projections qui, par leur caractère ou leur contenu, sont de nature confessionnelle.
Les services juridiques, les avocats, m'ont indiqué que ce film, s'il devait être diffusé, la ville serait dans l'illégalité. Et vous comprenez bien qu'au regard de tout ce qui est en train de se passer, moi, je tiens à respecter la loi. Qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas.
Ce film dont vous allez entendre en fond un extrait de la bande-annonce revient sur les apparitions du Christ à Sainte-Marguerite Marie à la Coque au XVIIe siècle.
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes.
Un film poignant avec de nombreux témoignages. Son réalisateur, Steven Gunnell, est très en colère.
Je n'accepte plus que nous, chrétiens, catholiques en l'occurrence, nous soyons censurés. Je ne comprends pas qu'en 2025, en France... Un film qui raconte un pan de l'histoire, au moment même où les gens, en plus, avaient pris leur billet, se retrouvent le bec dans l'eau, projection annulée.
Il est possible de voir ce film, néanmoins, dans d'autres cinémas de Marseille. Ce docu-fiction a rassemblé 200 000 spectateurs en seulement 3 semaines.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et enfin, alors que le gros de la tempête Benjamin semble passer en Normandie, le vent souffle toujours très fort à Dieppe, avec des rafales de plus de 140 km/h. Pas de victimes à déplorer dans la région, peu de dégâts humains également, mais un spectacle impressionnant en bord de mer. Résultat, de nombreux curieux se sont aventurés jusque sur la plage. C'est ce qu'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Reportage.
Un vent à en perdre l'équilibre sur la jetée en béton qui surplombe la plage. Caroline peine presque à tenir debout, mais la Diepoise tenait absolument à ce que ses petites nièces assistent au spectacle que leur offre la tempête.
Je leur ai montré un peu le décor. C'est vraiment impressionnant. C'est des vagues qui se croisent, on ne sait plus si le courant vient du sud, de l'ouest. Ça finit en mousse. On en prend plein le visage.
Un peu plus loin, Nathalie affronte elle aussi les bourrasques de vent en mitouflé dans sa parka bonnet de marin vissé sur la tête.
C'est magnifique. Les vagues, il faut des rouleaux, la mer qui explose contre la jetée, c'est super beau.
Elle n'ose pas trop s'approcher de la plage de Galets, trop risquée avec la tempête.
Vaut mieux être prudent quand même, parce que s'il y a les galets qui volent, ça peut faire un peu mal.
Dans la commune voisine de Pourville-sur-Mer, les vagues sont passées bien au-dessus de la jetée, faisant valser les galets jusque sur la route malgré les protections installées le long de la plage, comme le raconte Jean-Michel.
Vous voyez là-bas où il y a les barrages en bois qui sont là pour protéger de façon à ce que les galets ne viennent pas sur le parapet. Là, ils se sont trouvés cassés, c'est des planches de 10 cm d'épaisseur. C'est énorme, c'est la première fois que je vois ça.
Le sexagénaire sort sa caméra et filme les vagues qui se brisent sur les falaises blanches, son rituel à chaque tempête.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Signalons qu'en Corse, un touriste allemand a trouvé la mort après la crue d'une rivière. Une sapeur-pompier a été blessée en Gironde. Et pour l'heure, 60 000 foyers sont privés d'électricité dans toute la métropole, a précisé tout à l'heure le ministre de l'Économie, Roland Lescure. Il est 6h55. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot, avec notamment du cyclisme, puisque le parcours du Tour de France 2026 a été dévoilé.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Retrouvez toutes les gourmandises du marché Broussard le dimanche 26 octobre de 6h à midi au marché de Boulary. Cochons cuits au four, produits du terroir, jeux pour les enfants et animés par le groupe Los Valablos, tout pour passer une excellente matinée. Le marché de Boulary, toute la richesse de la proximité. Infoline 96 07 09.
La semaine du cheval arrive à Nouméa. Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre, rendez-vous à l'Hippodrome pour 3 jours d'émotions équestres. Les championnats régionaux de saut d'obstacles du vendredi après-midi au dimanche fin de matinée, le prestigieux Royal Pacific Challenge, compétition internationale, le vendredi 24 octobre à 19h avec les équipes du Vanuatu, l'Australie, la Polynésie française et de la province Nord et Sud. Un grand spectacle équestre le samedi 25 octobre à 20h. Ne manquez pas cet événement unique, la semaine du cheval à l'Hippodrome de Nouméa.
Il était une fois le royaume des jouets, un endroit magique où les peluches dansent, où les poupées chuchotent et où même le Père Noël fait ses courses.
Chez Nouméa Pas Cher, bien sûr.
Le catalogue jouets de Noël est arrivé chez Nouméa Pas Cher. Des milliers de jouets, des prix magiques et toute la féerie de Noël. Disponible en magasin et sur nouméapascher.nc. Nouméa Pas Cher.
La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
On va commencer avec le football et la suite des Coupes européennes ce matin, puisque Lionel Sabot, 4 clubs français sont engagés en Europa League et en Ligue Conférence.
Oui, alors je soupirais pendant votre introduction parce que j'ai du bon, du moins bon et du franchement pas bon du tout à vous annoncer. On va commencer avec l'Europa League. Le bon, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé ce matin 2-0 face au FC Bâle. Le moins bon, c'est Nice, qui est à la mi-temps, fait match nul, 1-0 sur la pelouse des Espagnols du Celta Vigo. Et puis le franchement pas bon, c'est Lille, à la mi-temps, à domicile, qui est menée 3-0 par les Grecs du Pauka Salonique. Et puis en Ligue Conférence, c'est mitigé pour Strasbourg, et qui a fait match nul devant son public, 1-0 face aux Polonais de Bialystok. Ce sont les Polonais qui menaient, et les Strasbourgeois ont repris force et vigueur en seconde période. Ils ont égalisé à la 78e minute de jeu. Je vous conseille d'aller regarder le but strasbourgeois, c'est un retourné acrobatique. Comme on les aime, avoir absolument 1-0 entre Strasbourg et Bialystok.
Eh bien, on diffuse les images tout de suite. Non, vraiment, on va parler cyclisme plutôt. Le parcours du Tour de France édition 2026 a été dévoilé hier soir pour nous. Les coureurs qui partiront cette année de Barcelone pour le Tour de France pour arriver 3 semaines plus tard à Paris, toujours pour le Tour de France.
Ouais, une grande boucle 2026 qui sera longue de 3333 km. Le départ de Barcelone le 4 juillet 2026 marquera le 27e départ du Tour de France depuis l'étranger, le 3e depuis l'Espagne, après San Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. L'année 2026 qui sera marquée par le nombre d'étapes en montagne. Sur les 21 étapes de cette 113e édition de la Grande Boucle, il y aura 8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude à Gavarny, sur le plateau de Solaison, à Orcières-Merlette et puis 2 fois à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. L'Alpe d'Huez à 2 reprises. Écoutez à ce sujet Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Depuis que les coureurs ont grimpé 2 fois l'Alpe d'Huez en 2013 pour la 100e édition du Tour, on avait très envie de passer par Sarenne. Maintenant, on ne peut pas inscrire l'Alpe d'Huez sur le parcours du Tour sans qu'il y ait les 21 virages. C'est impossible, les gens ne comprendraient pas. Ils diraient l'Alpe d'Huez, ils ne verraient pas les 21 virages. Donc ça voulait dire qu'il fallait 2 étapes. 2 étapes sur des formats différents. Une étape hyper ramassée de gap à l'Alpe d'Huez par la montée classique et une autre plus longue avec la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier, la montée de l'Alpe d'Huez par le col de Sarenne. Ce sera la première fois en montée. 2013, c'était en descente. Avec aussi un très gros contraste entre la ferveur, l'enthousiasme, la folie, le bruit des 21 virages et d'un seul coup le silence de Sarenne. Le samedi, il y aura le bruit jusqu'au pied de la montée de Sarenne, jusqu'au barrage du Chambon, Misouin, et ensuite il y aura du silence et à nouveau le bruit, l'enthousiasme, la folie pour l'arrivée. Donc ça va être quelque chose de fort, sans aucun doute.
Et au total de cette édition 2026, visitera les 5 massifs de l'Hexagone, les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Enfin, fait marquant, après une première réussite en 2025, la butte Montmartre sera de nouveau au menu pour la dernière étape avec une triple ascension de la rue Lepic.
Le sport côté calédonien avec Cédric Do qui prépare un nouveau combat au sommet.
Il sera engagé le 22 novembre prochain dans la Nuit des Champions, un événement réputé de la discipline à Marseille sur le ring du Palais des Sports de la cité phocéenne. Il affrontera Frédéric Carlo Berrichon, un très sérieux Rival. Cédric Do qui nous a fait part de son état d'esprit avant ce nouveau rendez-vous au sommet.
L'adversaire, donc, c'est un gros nom. Il s'appelle Frédéric Berrichon. Il était numéro 1 français à 72,5 kg. Et ma catégorie à moi, c'est 75 kg, 77 kg aussi. Et donc, du coup, on s'est entendu pour un combat. Donc, moi, j'aime bien ce genre de challenge, justement. Et lui aussi, puisqu'il manque de catégories pour m'affronter.
À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, hein, face à cet adversaire?
C'est quelqu'un qui a de la puissance dans les poings. On a quelque part le même style. On essaye de toujours avancer, d'être assez agressif dans notre boxe. Du coup, ça va être, je pense, un combat où on va essayer de garder le centre du ring, tous les deux. Et il faudra être vigilant parce qu'il a une grosse anglaise et il fait mal aussi avec ses poings. Donc, faudra bien monter la garde et jouer aussi avec moi, mes forces, pour pouvoir le déstabiliser. On a, nous deux, une belle place sur la scène nationale. Et donc, du coup, on sait forcément que le gagnant, ça va asseoir, en tout cas, notre statut de top français. J'ai à cœur de pouvoir gagner ce combat.
Et Cédric Do qui quittera le territoire le 10 novembre prochain pour un combat prévu le 22 novembre à Marseille à l'occasion de la Nuit des Champions. Ce sera en fait le 23 novembre au matin pour nous.
Et puis signalons que la semaine du cheval commence aujourd'hui sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. Vous y retrouverez des concours d'équitation, des animations et des spectacles. Pour l'occasion, des pratiquants et des chevaux venus de tout le territoire se donneront rendez-vous pour cette 12e édition. L'événement se déroulera jusqu'à dimanche.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on va regarder le ciel avec vous, Thierry.
Oui, ce matin retourne un temps majoritairement ensoleillé. Ça se voit déjà sur le territoire avec toutefois de petites averses qui se développeront en fin de matinée sur le relief et les loyautés. Le vent en sport ce matin, variable faible soumis au régime des brises côtières. Cet après-midi, le soleil continuera de briller sur l'ouest et la pointe nord. Ailleurs, les nuages se feront plus nombreux et finiront par l'emporter. Des averses se développeront sur le relief, Lifou et Marais. Elles se décaleront ensuite vers la côte est. Le vent pour cet après-midi, souvent variable faible encore et les températures maximales, elles sont en hausse, comprises entre 28 et 30 degrés et voire 31 à 32 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Bodin. Puis vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.